Salut les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des quartiers précaires. Faut-il réhabiliter ou expulser les habitants? 1 milliard de personnes vivent dans ces quartiers surpeuplés, essentiellement dans les pays du Sud. Et dans 30 ans, ce sera 3 milliards de personnes dans le monde. Alors que faire de ces quartiers, parfois implantés dans des zones à risque d'inondation, de glissement de terrain, où chacun construit son toit avec les moyens du bord, sans titre de propriété, ou au contraire dans des centres-villes délabrés, convoités par les spéculateurs de l'immobilier? À quoi servent les expulsions et les déguerpissements, si c'est pour déplacer le problème ou plutôt éloigner les familles de leurs emplois? Mais en même temps, comment améliorer ces quartiers avec la population sur place? Les pouvoirs publics font-ils les bons choix? Que conseillent aussi les bailleurs de fonds? Nous allons en parler avec nos invités des favelas au Brésil, des bidonvilles indiennes, des bidonvilles indiens ou dans les villes africaines. Je vous présente nos invités. Agnès de Boulay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue à l'Université Paris 8, Vincennes-Saint-Denis et centre de recherche sur l'habitat. Hervé Théry, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, spécialiste du Brésil et bien sûr des favelas, mais il n'y a pas que les favelas dans l'habitat précaire au Brésil, on en parlera. Vous êtes professeur à l'Université de São Paulo. Nous sommes en ligne également à Cotonou, au Bénin, avec Armel Choplin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, urbaniste à l'Institut de recherche pour le développement, responsable du programme Urbaco, Observatoire des dynamiques urbaines côtières en Afrique de l'Ouest. Et puis on va aussi parler de la France avec Delphine Depay, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice des politiques sociales urbaines au sein d'Emmaüs Habitat. C'est un bailleur social en France qui gère 14 000 logements en Île-de-France, donc région parisienne, 7 000 en quartiers dits prioritaires. Et quant à vous, les voisins, dites-nous quel est votre regard sur les quartiers précaires de vos villes. Qu'est-ce que vous pensez des politiques de déguerpissement? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro de téléphone WhatsApp et vous pouvez aussi envoyer des messages écrits. Et puis en fin d'émission, ce sera l'Afrique qui gagne. Portrait aujourd'hui de Sandra Agwebor, première femme mécanicienne au Nigeria. Elle a lancé le projet d'entreprise sociale Lady Mechanic Initiative pour former chaque année des centaines de femmes à contre-courant des idées reçues.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Je voudrais juste vous lire, avant de donner la parole à un auditeur, un message d'un voisin énervé à Goma, en RDC. En 2002, l'éruption du volcan Nyiragongo a décimé un quart de la ville et il aurait certainement fait bonne route en calcinant ce Capharnaüm. Fort malheureusement, son itinéraire a été autre. La solution, détruire purement et simplement ce quartier en relocalisant ses habitants ailleurs après une indemnisation préalable. Voilà, c'est un point de vue évidemment qui n'est pas partagé par tous les autres auditeurs, mais qui en dit long aussi sur l'état d'énervement des voisins dans ces villes-là. On donne la parole à un autre voisin qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour Conan.
Oui, bonjour Emmanuel.
Oui, est-ce que vous avez entendu ce message quand même très violent hein, de Guillaume à Goma. Alors vous, quel est votre point de vue? Comment vous voyez les choses dans une ville, Abidjan, qui est en pleine restauration, réaménagement avec des infrastructures multiples, les ponts évidemment, mais pas seulement, et ce qui fait qu'il y a régulièrement des déguerpissements, des expulsions de quartiers et d'habitants. Comment vous vous positionnez, vous, Conan?
Alors, moi, mon témoignage à Abidjan, à Yopougon, dans un quartier qu'on appelle Krata. Hein.
Oui.
Alors, donc, en 2015, bien avant même, ils avaient été menacés d'expulsion, mais les gens ont toujours résisté, tout et tout, parce que le relogement était toujours difficile. L'État n'arrivait pas à reloger de façon décente ces populations-là. Donc, les gens ont toujours résisté à maître prix jusqu'en 2015, où on les a expulsés. Et après l'expulsion, les gens ont trouvé des endroits pêle-mêle comme ça, rentrés en famille, chez des cousins, chez des parents. D'autres même sont rentrés au village parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se loger à Abidjan, parce que les logements coûtent beaucoup cher à Abidjan.
Et qu'est-ce que vous en pensez,
donc,
vous?
Il va falloir, on est obligé de vivre avec la misère, avec des gens qui sont démunis. Donc, pour ces personnes-là, essayer de réaménager ces endroits-là avec un minimum de sécurité pour que ces gens-là continuent de vivre. Parce que l'État ne peut pas les reloger de façon décente. Donc, on vit avec ces quartiers-là, mais on leur apporte quelques commodités quand même pour pouvoir, la sécurité, l'alimentation, l'hygiène dans ces endroits-là un peu, pour que ces personnes-là puissent vivre.
Réaménager en laissant les habitants sur place. Alors évidemment, quand c'est possible, hein, quand il est question de construire une voie rapide à la place du dit quartier, évidemment, c'est plus compliqué. Merci beaucoup, Conan, de nous avoir appelé. J'aimerais vous poser la question aux uns et aux autres spécialistes des quartiers précaires. Ça recoupe quand même des réalités qui sont très différentes. Un bidonville indien ne ressemble pas à une favelas brésilienne, Agnès de Boulay.
Oui, en fait, la dénomination quartier précaire, déjà, tout à chacun pourra avoir des définitions différentes, mais pour ma part, il me semble que la précarité d'abord et la question elle repose sur l'insécurité foncière, c'est-à-dire l'insécurité de la tenure du statut d'occupation. En fonction du niveau de sécurité ou d'insécurité, le bâti est plus ou moins dur, consolidé. Là où il est le plus insécure, souvent effectivement dans les grandes villes indiennes par exemple, et parce qu'il y a très très peu de fonciers disponibles pour la grande majorité des habitants.
Les terrains appartiennent à qui alors? Les terrains
à des grandes sociétés, à des grandes familles, à des conglomérats de plus en plus qui rachètent le foncier, etc. Voire à des fondations religieuses dans d'autres pays.
Ça atteint quelle proportion l'habitat en bidonville dans les grandes villes indiennes?
Je sais pas. Pour ce qui est de Bombay, j'ai travaillé un tout petit peu sur Bombay il y a quelques années. C'était 50-55% de la population, ce qu'on avait le coutume de dire, qui logeait sur 5% du territoire. Voilà. Mais effectivement, on a des pays dans
55%
lesquels...
55% de la population sur 5% du territoire. Je crois que ce chiffre-là, il est quand même assez terrifiant. Ouais. Si on parle des bidonvilles indiens, des favelas brésiliennes. Alors évidemment, pour un habitant d'un bidonville en Afrique... On pourrait avoir l'impression que dans une favelas brésilienne, on a des branchements sauvages aux chaînes de télévision, on peut avoir de l'eau potable à proximité, voire même dans l'habitation. C'est vrai que il n'y a pas un dénominateur commun, en tout cas sur le plan de l'aménagement concret technique de l'habitation.
Non, et une illustration, on a eu il y a quelques années, on a fait un programme de recherche comparé sur les slums indiens et sur les favelas brésiliennes. Donc il y a des gens qui sont venus de part et d'autre.
Les slums, c'est les bidonvilles.
Voilà, les bidonvilles indiens. Et les chercheurs, quand ils sont arrivés au Brésil, ils ont dit « Ah, c'est joli ce quartier de classe moyenne, c'est quoi ?» Et c'était une des principales favelas de Rio. Effectivement, il y a des niveaux, des enfers successifs, comme dirait Dante. Et effectivement, il y a quelques années, il y a eu une descente de police dans une des favelas de São Paulo. Et on a trouvé un réseau qui distribuait la télévision par câble. Et les gens qui l'avaient mis en place avaient eu le culot de l'appeler Gatonet. Gato, c'est le branchement clandestin. Donc, ils avaient fait Gatonet. Et quand ça a été mis aux normes, les gens ont protesté parce que c'est devenu quatre fois plus cher.
Évidemment. Le point commun, en tout cas, dans le monde entier, c'est que les habitants de ces quartiers se sentent abandonnés, exclus de la ville, Delphine de Paix.
Alors oui, c'est vrai que ça, c'est le point commun, mais je me retrouve pas du tout dans les descriptions que vous avez faites sur l'habitat précaire en France, hein, et notamment dans le logement social qui est éminemment structuré, éminemment réglementé. Et aujourd'hui.
Alors, ne disons pas qu'il n'y a pas de bidonville en France. Il y en a. Notamment les campements de Rome qu'on peut voir le long des bretelles d'autoroute.
Mais c'est pas du logement social. C'est effectivement le constat que vous faites, on le fait tous. Il y a ces bidonvilles aux périphéries des villes pour lesquelles il est très difficile d'ailleurs d'avoir une approche efficace et pertinente. Néanmoins, pour ce qui est du logement social, ce qui caractérise le logement précaire, c'est le niveau de ressources des occupants. C'est uniquement cet aspect-là aujourd'hui en France qui est pris en compte pour définir un quartier précaire.
Sur le sentiment d'exclusion, alors bien sûr, on va reprécisons que ce qu'on appellerait habitat vraiment précaire et bidonville en France, c'est une infime minorité de l'habitat, et donc rien à voir avec l'habitat social, mais sur ce sentiment d'exclusion, de ne pas faire réellement partie de la ville. Il y a le poids des mots. On évite d'ailleurs en France maintenant de parler des banlieues. Hein, on parle des quartiers. Par exemple, on va utiliser le mot kébé en Mauritanie qui veut dire dépotoir. Favela, c'est mal perçu au Brésil comme mot.
On dit plus ça, on dit comunidade maintenant. Ouais. Les communautés.
C'est ça. Ouais.
C'est un euphémisme.
C'est ça, mais ça définit la même chose.
Ah, c'est
mais
pareil.
C'est bien la preuve qu'on est mal à l'aise avec les mots, non, Agnès de Boulay?
Oui, absolument. Et on parle beaucoup aussi de quartiers clandestins, de quartiers anarchiques, toujours pointant finalement l'état d'indéfinition, le caractère illogique de ces implantations.
Le désordre de la ville.
Le désordre de la ville, niant les capacités en fait des habitants à s'organiser, à s'auto-organiser et à penser leur environnement. Mmh.
Tous les habitants de toutes les villes du monde, pratiquement, dans les grandes villes en tout cas, ont intériorisé ces frontières qui séparent les quartiers.
Au Brésil, les gens qui habitent dans les favelas parlent des gens du bas, à Rio principalement, où ils sont sur l'auteur, les gens de l'asphalte, au pessoir d'asphalte. Et nous, sur la colline, et eux là-bas en bas. Et donc c'est vraiment eux et nous qui est très fréquent. Alors c'est pas tout à fait vrai, il y a des circulations, et puis il y a les circulations de travail. Et chaque fois qu'on a voulu déplacer les gens des favelas, ça s'est toujours mal terminé, parce que les gens des favelas ont besoin de la proximité de la ville, et la ville a besoin d'eux. Puisque les femmes sont souvent les employées de maison en bas, les hommes sont gardiens, plombiers, etc. Et donc ils ne peuvent pas s'écarter. Donc il y a vraiment une liaison symbiotique entre les gens de la favela et les gens de la ville.
La ville des favelas, c'est vraiment São Paulo d'abord, où l'immobilier est exorbitant.
En nombre de gens, c'est de loin la principale, puisque c'est la plus grosse ville du pays. Mais en proportion, c'est Rio. Rio, c'est un quart des gens dans les favelas, à São Paulo un petit peu moins. Sauf qu'un quart de 10 millions, c'est moins que 10% de 18 millions.
Ouais. São Paulo, 18 millions. Dans un pays de 800 millions d'habitants, qui est la locomotive économique du continent, il n'y a pas que les favelas, d'ailleurs, qui sont ce qu'on appelle des habitats indignes. Il y a aussi...
C'est 200 millions, ouais. Pas 800. Hein. Vous êtes un peu
pardon,
enthousiaste.
Pardon, tout à fait. mais c'est vrai que dans ce pays-là, qui est le pays le plus peuplé d'Amérique latine, qui est en PIB aussi la locomotive du continent. Est-ce que, alors il y a les favelas qui sont en périphérie, mais il y a aussi de l'habitat indigne,
oui.
dans les centres-villes.
Oui, ce qu'on appelle les cortiços, ce seraient les taudis, dans le centre des villes. Et j'étais il y a 15 jours dans une soutenance de thèse à Lyon qui portait entièrement là-dessus, d'Octavie Paris, qui montre bien que c'est encore très important, d'autant que les centres-villes se dégradent. Les gens qui ont un peu de moyens fuient le centre-ville. Et donc, c'est plutôt une paupérisation maintenant des centres avec des logements surpeuplés. Avec la particularité que l'habitat social au Brésil est uniquement d'acquisition. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de logement social locatif. Donc, c'est très difficile d'y accéder et ça fait de façon un peu anarchique. Et donc, ces cortices du centre-ville sont aussi une partie importante de la population des gens précaires, en situation précaire.
Ça veut dire des gens qui sont locataires, qui sont squatteurs, qui sont...
Alors c'est souvent des immeubles dont le statut n'est pas très clair, des héritages un peu confus, donc il y a des marchands de sommeil qui s'en emparent et qui sous-louent, en dépassant les normes bien entendu d'habitation, et c'est des gens qui payent assez cher en fait pour pouvoir rester au centre.
Pourquoi assez cher ?
Parce que les gens leur demandent des loyers surévalués qu'ils acceptent, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans le système normal. Donc ils sont dans un système précaire, et quand on est dans un système précaire, ça se paye.
C'est ça. Et sinon, l'autre choix, c'est d'habiter très loin, et ça coûterait très cher aussi en transport,
et en plus,
pour avoir accès
beaucoup,
à un travail.
C'est souvent 2 heures dans chaque sens, donc 4 heures de sa vie par jour.
Oui. La construction, alors là on parle beaucoup quand même quand on parle des quartiers précaires, Agnès de Boulay, de maisons, d'autoconstruction, qu'est-ce que ça veut dire exactement ?
Alors en fait l'autoconstruction, mais c'est en fait, on pourrait plutôt parler d'auto-organisation, enfin, c'est-à-dire que ça se situe quand même à un autre niveau. De plus en plus en effet, dans tous ces quartiers, l'autoconstruction devient quand même relativement difficile. Il y a une perte de savoir-faire, il y a une division du travail de plus en plus forte. On fait appel à des maçons, on fait appel à des entreprises, voire au Caire parfois vraiment à des promoteurs, y compris pour construire des immeubles dans des quartiers précaires. Mais il s'agit d'auto-organisation dans le sens où l'État, les autorités locales, élues ou pas élues, selon le niveau de gouvernance du pays, n'est pas présent, c'est-à-dire que, et ce n'est pas régulé de façon officielle. Donc il y a des formes très fortes d'auto-organisation collective, communautaire ou autres qui sont intéressantes à regarder et à étudier, parce que c'est aussi des leçons de ce que des gens sont capables de faire dans des situations
de privation.
Armelle Choplin, vous êtes en ligne à Cotonou. Comment sont situés les quartiers précaires dans les villes africaines? Est-ce qu'on a les deux situations, comme l'a décrit Hervé Théry, c'est-à-dire à la fois des quartiers très entremêlés avec des quartiers plus aisés en centre-ville et puis des phénomènes de banlieue, de bidonville très excentrés? Comment c'est organisé spontanément?
Finalement, il n'y a pas vraiment de schéma type. Il y a des villes où il y a des grands bidonvilles, on va dire, en périphérie, ce qui est le schéma le plus classique, hein, des villes comme Abidjan ou Bamako ou encore Dakar. Et puis, vous avez des villes comme justement Cotonou, où enfin, vous avez des quartiers précaires qui peuvent être en centre-ville. Et même au sein même de ces quartiers dits précaires, vous pouvez avoir des gens beaucoup plus riches qui ont les moyens de construire en hauteur, par exemple, parce que souvent, comme c'est le cas dans des villes africaines et ailleurs, c'est des quartiers, on va dire, où il y a des problèmes, par exemple, d'inondation ou de glissement de terrain, et donc des gens qui sont plus riches qui peuvent construire eux et se permettre de construire sur des bas-fonds, par exemple, en mettant beaucoup de ciment, et du coup sont eux à l'abri, et par contre leurs voisins ne le sont pas. Donc voilà, ça peut être vraiment varié de ville en ville.
Alors vous parliez de ces fameux risques, inondations, éboulements, glissements de terrain. On retrouve des drames à peu près partout. On en a eu au Brésil, on en a eu plusieurs, évidemment, sur le continent africain dans l'actualité récente. Je pense notamment à la RDC. Il y en a d'ailleurs en France, il faut qu'on en reparle, mais ce qu'on appelle l'habitat indigne concerne plus de 400 000 logements insalubres ou dangereux. Et on l'a vu avec Marseille, qui quand même cumule 10% des logements indignes. En France, on semble découvrir finalement le problème des... alors, ce n'est pas de la zone à risque, mais c'est quand même du logement à risque.
Oui, alors c'est vrai que c'est une réalité qu'il faut traiter. En centre-ville, on a effectivement dans les centres-villes un certain nombre d'habitats qui sont de l'habitat privé, qui sont parfois très mal entretenus, aux mains de marchands de sommeil qui effectivement les louent à des prix astronomiques à des populations très en difficulté. Et puis, ce qui s'est passé à Marseille est pour l'instant inexpliqué, hein, puisque moi, je ne sais pas si vous avez entendu des explications sur ce technique sur ce qui s'est passé, mais bon, en tout état de cause, cet immeuble était visiblement frappé d'un arrêté de péril, donc aucun occupant n'aurait dû se trouver à l'intérieur. Enfin voilà, donc les lois françaises sont très prévoyantes, sont très protectrices, mais leur application est parfois un petit peu difficile à mettre en œuvre. Et puis, se dire comment on peut en arriver là, c'est vrai que dans notre pays, ça nous interpelle fortement, hein, comme les ponts qui s'effondrent en Italie. Enfin, je veux dire, on a quelque chose là qui nous percute et qu'on n'avait pas vu venir, quoi. Ça, c'est sûr.
Hervé Théry.
Je dis toujours à mes étudiants, vous avez raison de vous inquiéter pour l'Amazonie, vous avez raison, mais combien de morts par an en Amazonie? Quelques-uns. Et tous les ans, il y a des dizaines de morts par des glissements de terrain dans la périphérie des grandes villes brésiliennes, sur des terrains inconstructibles, mais qui sont néanmoins occupés.
Des terrains inconstructibles et que les municipalités laissent finalement l'habitat spontané.
Oui. Le cas le plus scandaleux, c'est il y a quelques années, des gens qui avaient construit sur une ancienne décharge. Il y a eu une explosion du méthane qui a non seulement c'était en pente, mais c'était sur des déchets. Donc là, c'était absolument absurde de construire là-dessus. Mais quand on n'a pas le choix, on fait ce qu'on peut.
Armelle Choplin, on parlait de l'habitat précaire dans les centres-villes, mais il y a aussi effectivement tous ces habitats qui sont construits là où précisément personne ne voudrait s'installer sur le continent africain.
Oui, dans toutes les villes, on va dire côtières ouest-africaines, la plupart des gens, faute d'espace, finissent par combler des bas-fonds, en fait. Et ça pose un véritable problème. On est sur des systèmes lagunaires, côtiers, donc des milieux très fragiles. Et par exemple, dans le cas de Cotonou, mais on peut voir ça aussi dans des villes voisines, les gens n'ont d'autre choix que de construire ou de mettre des déchets un peu pour faire comme des îles de déchets sur l'eau pour pouvoir se mettre dessus. Donc un peu comme des polders de déchets. Hein. Et c'est aujourd'hui, par exemple, à Cotonou.
Alors, on va essayer de comprendre quelles sont les solutions. Vous restez avec nous, bien sûr, 7 milliards de voisins, vous pouvez nous appeler. On parle des bidonvilles, des quartiers précaires, de l'habitat indigne. Quelles solutions? Réhabiliter, expulser. On parlera de l'expérience d'Emmaüs Habitat, d'ailleurs, qui s'est déroulée sur plusieurs années, parce que les programmes de réhabilitation réhabilitation en urbanisme sont très très longs. On se posera aussi la question, pourquoi c'est si long? Parce que ça n'est pas le temps du politique, le temps de l'habitat, le temps de la ville. Et ça aussi, ça pose quand même un problème.
You're Chinese. I said, I know I smoke high, but don't take your piss. He said, listen, that's the test. He would just snatter. Please, if you have a question, I'll to counter. So I go to receptionist, please, what is wrong? She said, listen, listen, that is the result. It's not wrong. This time, we don't be getting right. So I go to China, make a kung fu. I dey drink cockroach breast milk, I dey do many things. 10 years later, I don't get my wedding ring. I have two baby, one son, one daughter, and then sing, sing, shong, shing. Jamaica, are you sure? Say yes, fam, I go on. You're from Jamaica, so I go back to Jamaica. I gave all my DNA to find my ancestry. Took 6 weeks and they took my money. I gave all my DNA to find my ancestry. Can you believe what the doctor told me? Anyway, one day at my daughter's birthday, yeah. I get a phone call in a very peculiar way. The doctor said, hey, can you Mr. Ajozi? I said, no, that's not my name. My name is Sean Wayne. He said, okay, Mr. Sean Wayne, I have something that I have to say to you today. And this is very, 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 very special trait. He appears the two doctors that called you the other day. They were wrong. I'm sorry for this matter, but you need to come back to the office right now as a matter of fact. I said, are you the days that they come full for China? No, together matter. So anyway, I take another plane, I go to London. This time I'm very vexed, no they function. As I kick in the door, I see the doctor, he won't rub his chin again. I just slap his head, I grab his piss. Excuse me, sir, sorry, your papers are wrong again. What? I don't know what's wrong with our sister, must be your melanin. It depends actually you are from. Let's go. Cause I'm blind.
It depends actually you are from.
Vous écoutez 7 milliards de voisins en direct sur RFI Ancestry African Boy et on parle aujourd'hui des bidonvilles et des quartiers précaires, de l'habitat indigne. Quelle solution? Comment réhabiliter sans expulser? On en discute avec vous, Agnès Deboulay, Hervé Théry, Delphine Depay, Armelle Choplin qui est en ligne à Cotonou. Je vous lis juste quelques messages. Mache à Pretoria en Afrique du Sud nous dit que réhabiliter les quartiers précaires semble fonctionner. Le gouvernement sud-africain réaménage des habitats dans certains townships parce que pauvre ou riche, tout le monde a le droit d'avoir un toit proportionnellement assez moyen. Diderot à Yaoundé nous dit des quartiers comme Briqueterie, Tongolo sont construits de manière très anarchique. Les gens ne peuvent pas se loger décemment. Malheureusement, au lieu d'améliorer la politique de l'habitat, l'État a opté pour la destruction de ces quartiers sans penser à reloger les habitants. Ce sont des zones à risque, c'est vrai, mais faut-il les déguerpir? Les logements sociaux qui normalement devraient être habités par les plus démunis sont plutôt peuplés par des hauts fonctionnaires et des ONG se battent pour aider ces personnes. Peut-être un mot de réaction, Armelle Choplin, là, sur ces deux messages qu'on vient de lire. On a aussi des logements sociaux qui sont construits pour des fonctionnaires, d'ailleurs, en Côte d'Ivoire et pas seulement.
Oui, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que les autorités, très souvent, n'ont pas beaucoup de choix, ou en tout cas, elles optent pour la solution de facilité qui est de détruire ou de déguerpir, parfois même brutalement dans certaines villes, sans proposer de relogement ou d'indemnité. Et ça, c'est vraiment un des principaux problèmes, parce que, comme vous l'avez dit dans l'introduction, ça ne fait que déplacer le problème. Et ce qu'ils font parallèlement, c'est de faire des programmes de logements sociaux. Mais en fait, quand on regarde ce qu'il y a derrière ce terme social, ça n'a rien de social. En tout cas, c'est réservé à des gens qui ont des comptes en banque, qui peuvent s'endetter sur 20 ans. Donc, on est très loin, on va dire, du terme logement social qu'on pourrait retrouver en Europe.
Ça serait souvent, plutôt un programme d'accès à la propriété, finalement.
Oui, voilà, c'est un programme d'accès location-propriété sur 25 ans. Et donc, ça n'a rien de social. En tout cas, ce n'est pas pour les plus pauvres. Et aujourd'hui, les autorités, souvent, ne font rien de concret. impacts pour les plus pauvres, si ce n'est déguerpir les gens, donc déplacer le problème.
Au Brésil, il y a des phénomènes, il y a eu des programmes comme ça d'accès à la propriété pour les plus pauvres par oui, le Parti des travailleurs sous Lula.
Oui, il y en a un gigantesque qui s'appelle Ma Maison, Ma Vie, Minha Casa, Minha Vida, qui était prévu pour faire 5 millions de logements, qui a été interrompu prématurément par la destitution de la présidente, mais qui a quand même fait 3 millions de logements, ce qui est quand même beaucoup, beaucoup. Mais c'est effectivement la même chose, accès à la propriété par acquisition, parce qu'on part du principe que les pauvres ne paieraient pas leur loyer, ce qui est manifestement faux. On sait bien que c'est parmi les meilleurs payeurs qui soient. Et donc, ça, et en plus, c'est maintenant fait dans des quartiers extrêmement lointains, puisque c'est entièrement confié au secteur privé, qui trouve le moyen d'équilibrer avec des prix très bas en mettant les gens très loin. Et donc, ça ne résout que... Enfin, on a un phénomène qui ressemble à ce qu'on a connu en France. Les gens qui en sont les bénéficiaires sont très contents, une maison très jolie, toute neuve, etc. Et progressivement, ils vont se rendre compte qu'ils sont loin de tout, qu'ils payent du beaucoup très cher.
Parce qu'il n'y a pas eu d'infrastructure aussi de transport. Et puis, même s'il y en a, il y a à un moment donné l'engorgement de la ville qui fait que...
Oui, ça se fait au long de routes qui n'ont pas été redimensionnées. Il n'y a aucun service dans des énormes ensembles. On livre par paquet de 5000 maisons.
Et pas d'emploi à proximité.
Et pas d'emploi.
Ouais. 7 milliards de voisins.
C'est sur RFI.
On donne la parole à un auditeur, Jean-Marie, qui nous appelle. Bonjour Jean-Marie, vous êtes au Bénin ?
Oui, bonjour madame.
Vous avez la parole Jean-Marie, vous êtes en direct chez 7 milliards de voisins.
Ok, d'abord, le débat de ce jour, ça porte sur les bidonvilles et au-delà. Mm-hmm. Sinon, au Bénin, et la construction de la construction des bidonvilles et au-delà dépend de deux choses. Premièrement, est que quand vous payez un terrain, et que vous ne construisez pas quelque chose sur ça, et vous serez surpris d'entendre que le propriétaire qui vous l'avait vendu la revend à quelqu'un d'autre.
Parce que vous n'avez pas démarré la construction suffisamment vite, c'est ça ?
Voilà. Mmh. Certains propriétaires malhonnêtes font comme ça. Voilà. C'est pourquoi on construit, vous allez voir, en tout cas, des bidonvilles partout, c'est pas...
Mais si vous avez un titre de propriété, comment on peut revendre votre bien ?
Oui, ça se passe facilement et que c'est des dossiers qui sont pendants devant nos tribunaux au Bénin ici. Et le bel exemple, c'est mon cas même. Je suis dans la maison de mon papa.
Oui.
Et il a payé la maison. Puis, régulièrement, le propriétaire vient dans la maison avec des chaînes et commence pas à arpenter, commence à mesurer des choses devant moi. Voilà.
Pour revendre, le terrain. Mais ce que vous voulez dire, c'est que du coup, il y a une incitation à construire très vite, très mal.
Voilà.
Parce qu'on n'a pas suffisamment l'argent pour construire avec quelque chose de bonne qualité.
Et c'est même pas comme ça. Si vous êtes peut-être en fonction, peut-être au nord du pays, que vous avez une parcelle à Cotonou, vous ne pouvez pas habiter les deux endroits à la fois.
Oui, bien sûr.
Et on essaie de mettre quelque chose pour que le propriétaire sache désormais qu'il y a une présence humaine là.
Oui, bien sûr, bien sûr. Merci de nous avoir appelé Jean-Marie. Armel Choplin, ce phénomène existe au Bénin, pas seulement. Comment comprendre qu'il y ait cette menace si la construction ne démarre pas suffisamment vite pour des habitants ?
Mais alors, la question de la revente multiple de terrain est assez fréquente dans les villes africaines. Pour une première raison qui est qu'il n'y a pas de cadastre à jour, et là je pense que c'est une des solutions aussi sur lesquelles qui pourrait résoudre certains litiges fonciers, c'est-à-dire numériser, avoir le plan des parcelles à jour et qu'à chaque fois qu'un titre foncier est vendu, il soit enregistré. Et dans beaucoup de villes, ce n'est pas encore le cas. Les gens les enregistrent, parfois vont voir par exemple dans les pays musulmans un cadi, donc un chef religieux qui va enregistrer la transaction, mais enfin ce n'est pas enregistré au niveau de l'État central. Et de ce fait, on a parfois des ventes de terrains multiples, c'est le cas à Nouakchott, c'est très fréquent. Donc voilà, l'idée de pouvoir numériser aujourd'hui avec tous les outils, le cadastre, les politiques d'adressage, même si on sait que ça vise d'abord à faire payer les impôts, y compris dans les quartiers précaires, eh bien, peut être une solution aussi pour régler ces problèmes de litiges fonciers.
Hervé Théry, il y a aussi des problèmes de litiges fonciers dans les favelas au
Même
Brésil.
Même chose, puisqu'on est sur des terrains inconstructibles, donc il ne peut pas y avoir de vrai cadastre. Et de toute façon, le cadastre au Brésil est entre les mains du privé, c'est-à-dire des notaires, l'équivalent des notaires. Mais la technologie est parfois utilisée de façon étrange. À Rio, il y a maintenant une application qui permet aux habitants de savoir où il y a des tirs croisés. Ça s'appelle Fogo Cruzado. Donc les habitants se servent de la technologie sur leur portable pour savoir les quartiers où il faut éviter parce qu'il y a des bagarres de gangs en cours.
Oui, parce qu'il faut bien le redire, au Brésil, les favelas sont noyautées par les narcotrafiquants. Et donc le but des familles, c'est s'installer dans les quartiers les moins dangereux. La définition même de favelas au Brésil, c'est le fait de ne pas avoir... c'est que les terrains ne puissent pas devenir constructibles, hein, c'est ça ?
Alors, il y a une définition par l'Institut de Statistique. Ici, maintenant, il s'appelle les habitations subnormales, c'est la dernière définition, où c'est un paquet, un ensemble de variables dont, avant tout, c'est inconstructible et illégal, plus il manque tel et tel élément de confort. Donc c'est assez précis.
Un auditeur nous poste le message suivant. Souleymane est au Burkina Faso et nous dit « Dans mon pays, l'État amène l'eau, l'électricité et trace des voies pour améliorer ses quartiers. C'est le cas de Codeni à la sortie de Bobo-Dioulasso ou même de Bounouna à Banfora, dans le sud-ouest du Burkina. » Est-ce qu'on peut dire un mot sur les expériences au Burkina Faso, Armel Choplin, où on a des programmes de légalisation sur de l'habitat au départ spontané.
Ouagadougou, c'est intéressant, c'est une ville qui s'est construite justement par des politiques successives de régularisation, ce qui a souvent été le cas dans beaucoup de villes, hein.
Oui, Armel Choplin, j'ai l'impression qu'on a un petit problème de... Alors, on était en train de parler de ces politiques de régularisation, puisqu'on parle d'habitat spontané, des habitants s'installent dans un quartier, font des branchements sauvages, enfin, ceux qu'ils peuvent brancher sauvagement ou pas. Qu'est-ce que ça provoque comme effet pervers, Agnès Deboulay, quand ensuite, il y a des régularisations, soit des titres de propriété, soit des systèmes d'assainissement qui sont amenés, etc., pour améliorer, bien sûr, les conditions de vie des habitants?
Alors, d'une certaine façon, on peut faire le parallèle entre la régularisation foncière par exemple, la régularisation des sans-papiers. Enfin, le fait que les mesures restent limitées à très local, etc., ou à un type de population, fait nécessairement créer une sorte d'appel d'air, de concurrence sur des ressources. Autour de ressources rares, alors en l'occurrence le foncier, l'accès au foncier, et par conséquent va amener des populations à anticiper de façon stratégique pour l'installation de façon à elles-mêmes être régularisées alors qu'elles n'étaient pas éligibles, ou alors va accélérer la revente de terrain, va accélérer donc parfois la dimension spéculative. Ceci étant, ce qu'on sait, c'est que la régularisation, en fait, elle est surtout, elle peut être positive si elle n'est pas assortie d'une politique stricto sensu de légalisation. Ce qui est aussi problématique, c'est de se focaliser sur la légalisation qui est en fait très contraignante, finalement coûteuse pour les occupants, alors qu'il y a des solutions intermédiaires,
c'est-à-dire
plus pratiques,
concrètement.
Par exemple de bails à long terme ou de baux emphytéotiques, l'équivalent de baux emphytéotiques.
Pour pas qu'il puisse y avoir spéculation, parce qu'en fait, il peut y avoir spéculation, voilà. même dans les milieux les plus pauvres.
Il peut y avoir effectivement spéculation, bien sûr, dans les milieux plus pauvres, et peut-être parfois plus qu'ailleurs, dans la mesure où, encore une fois, on est autour de ressources rares, mais... l'accès à la propriété, on sait que beaucoup d'États n'arrivent pas à l'assumer, n'arrivent pas à le construire. C'est très, très difficile. Et c'est également, ça a un coût extrêmement élevé.
Ça veut dire qu'il y a des programmes. Vous pensez à certains pays, là, en particulier, où on dit aux gens, vous êtes régularisés, vous avez un bail, vous avez donc une sécurité, vous n'êtes plus en situation de précarité, mais vous n'êtes pas pour autant propriétaire de la parcelle où vous avez construit de manière spontanée.
Oui, bien sûr. Il y a des pays dans lesquels il y a des programmes d'accès, disons, progressif à la propriété ou de baux de très très long terme. Ça existait aussi par exemple dans certains pays musulmans sous forme de bail avec les autorités, et c'est en train finalement, ce sont des formules qui sont en train de disparaître en fait souvent, paradoxalement, parce qu'il y a une valorisation au niveau mondial d'un discours sur la propriété, l'accès à la propriété.
Alors que c'était une formule qui marchait bien, selon vous ?
Qui marchait relativement mieux, oui.
Vous êtes d'accord avec ça, Hervé Théry ?
Oui, ça se pratique un peu au Brésil, on appelle ça un contrat de tiroir, contrato de gaveta. C'est-à-dire qu'on passe un contrat de gré à gré, écrit quand même, mais qu'on garde dans son tiroir pour le jour où on pourra légaliser. Et donc ça permet à des gens, les premiers qui sont arrivés, qui ont construit les premières favelles de bois, qui ont réussi, ont assez envie en fait de vendre à quelqu'un d'autre pour retourner dans leur région d'origine, souvent. Et donc c'est une façon aussi de se capitaliser. Une fois qu'on a construit une maison en dur et qui est à peu près correct, la passer à quelqu'un d'autre, c'est pas un mal en soi. Ça permet.
Ça veut dire la passer à quelqu'un d'autre avec une forme de sécurité en disant, tu vois, j'ai le contrat dans le tiroir qui permet que tu ne sois pas expulsé. C'est ça.
C'est un contrat de gré à gré, donc juridiquement, il vaut pas grand chose, mais au moins, ça permet de personne à personne, dans une certaine confiance, d'améliorer sa situation.
Qu'est-ce qui va se passer avec l'échec quand même du Parti des travailleurs sur les politiques d'habitat précaire et avec l'arrivée du nouveau président brésilien, Bolsonaro?
Je vais vous dire que du haut,
de
mon expérience de 45 ans du Brésil, je peux vous redire que je ne sais pas. Personne ne sait. C'était une élection un peu par surprise et je pense que la tonalité générale de ce qu'il dit donne de bonnes raisons de s'inquiéter. Je pense que c'est vraiment pas du tout sa priorité.
Ça veut dire qu'il y aura des risques d'expulsion des habitants des quartiers qui n'ont pas de droit de propriété, qui sont sur des terrains non constructibles, pour notamment des spéculations immobilières.
Je crois que sa première préoccupation, et ça, ce qui l'a fait élire, c'est l'insécurité. Donc je pense qu'il va avant tout y avoir des politiques répressives pour essayer de résoudre le problème de la violence par la violence, avec des chances de succès assez minces. Le côté habitat et légalisation vient nettement derrière les questions d'insécurité.
L'armée dans les favelas?
Elle y est déjà.
Elle y est déjà, c'est ce que j'allais dire. Oui. Il y a déjà eu une reconquête militaire pour lutter contre la violence et les narcotrafiquants dans les favelas.
À Rio, exclusivement pour l'instant. Ça ne marche pas très très bien.
Oui, j'allais vous demander, qu'est-ce que ça a donné réellement?
Rien, l'armée n'a qu'une idée, c'est de s'en aller, parce que ces soldats sont contaminés par le narcotrafic, donc soit sont corrompus, soit deviennent drogués eux-mêmes. Donc je pense que l'armée n'a aucune envie de prolonger l'expérience. Je ne pense pas que ça ait la moindre chance de succès.
En Afrique, Armel Choplin, les pouvoirs publics, on les dit souvent, dépassés, inactifs, corrompus, incompétents, autoritaires, pas qu'en Afrique d'ailleurs, mais sur cette question de l'habitat précaire, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des programmes qui vous semblent intéressants, des pistes intéressantes?
Oui, alors souvent, ils ne sont pas face au fait qu'ils soient dépassés, ils optent pour la violence, la politique du bulldozer, même si c'est de moins en moins vrai, parce que quand même, suite à l'influence et aux injonctions un peu des bailleurs de fonds, de type la Banque mondiale, qui a fait une directive qui interdit normalement de déplacer de façon involontaire des gens, les États sont quand même un peu contraints, les autorités, à au moins sous certains programmes, quand il y a des bailleurs qui interviennent, ils sont contraints de dédommager les populations. Et ça c'est quand même des avancées, même si ce n'est pas respecté toujours, ça commence à être de plus en plus mis en œuvre dans certaines villes. Maintenant, il y a des programmes, en tout cas, qui essayent de rattraper, voilà, comme au Burkina tout à l'heure, le fait que la ville avance, donc on essaye de rattraper et d'inclure dans la ville ces quartiers-là. Et d'amener les services, parce que finalement, vivre dans un bidonville aujourd'hui, c'est toujours être confronté au même problème que vivre dans un bidonville il y a 50 ans, dans une ville européenne où il y a 100 ans, c'est-à-dire c'est le manque d'eau. On paye plus cher les services de base que sont l'eau, l'électricité, puisqu'on fait des toiles d'araignée pour amener le courant, on paye l'eau au litre et non pas au mètre cube comme dans les quartiers qui sont connectés. Donc voilà, la possibilité, c'est d'amener les services publics avant que de laisser le terrain entièrement au service privé, parce que dans ces quartiers, finalement, ils ne sont pas reconnus, et bien il y a des écoles privées, pas d'écoles publiques, très souvent.
Et vous faites bien de le rappeler, on paye tout plus cher dans ce type d'habitat. Delphine Depay, en France, Emmaüs Habitat a rénové 4 résidences. Alors là, on parle bien du logement social, on est dans un autre monde, quoique, parce que pour ce qui est de payer plus cher la facture énergétique quand on est dans un logement qui est mal isolé, là aussi ça coûte très cher pour les personnes qui sont en situation de précarité en France. Vous avez rénové donc 4 résidences dans le Val d'Oise à Saint-Ouen-l'Aumône, en concertation avec les habitants. Est-ce que vous pouvez nous dire, bon bien sûr de manière très résumée, parce que ça c'est un programme qui s'est étalé sur des années, 10 ans hein, je crois, mais comment ça s'est fait concrètement?
Alors ça s'est fait grâce à un outil que l'État a mis en place en 2003 qui s'appelle l'ANRU, l'Agence Nationale de Rénovation Urbaine, et qui a apporté des financements très importants aux bailleurs sociaux pour leur permettre de faire des véritables recompositions urbaines de ces quartiers, mais aussi d'apporter d'avoir en parallèle une approche sociale. Et je crois que ça c'est extrêmement important en France. Je pense qu'on a aujourd'hui bien compris que l'action sur le bâti n'était pas suffisant et qu'il fallait également avoir une approche vis-à-vis de la population. S'il suffisait de repeindre un mur pour que tout le monde aille mieux dans le logement, on se baladerait tous avec des pots de peinture, hein, mais sauf ça, ça ne fonctionne pas. Donc on a eu une approche, certes, qui a pris du temps, mais qui a mis l'habitant au cœur de la démarche. C'est-à-dire que quand on démolit un bâtiment, par exemple, ça prend beaucoup de temps parce qu'on est en négociation avec les locataires, on doit leur retrouver un logement qui corresponde à leurs aspirations, à leurs ressources.
Dans le même quartier, dans ces cas-là ?
S'ils le souhaitent, oui. Sinon, on peut aussi leur faire des propositions ailleurs pour se rapprocher éventuellement de leur travail. Voilà, faire des propositions adaptées à leurs ressources, à leur composition familiale. Donc ça prend beaucoup de temps. Il faut aussi avoir des projets de reconstruction, puisque en France, on est dans ce qu'on appelle le 1 pour 1. Un logement démoli doit s'accompagner d'un logement reconstruit. On a une approche aussi de réhabilitation des logements qu'on ne démolit pas, de résidentialisation. Et d'ailleurs, dans la réhabilitation, la dimension énergétique est très importante aujourd'hui. On a des obligations fortes de rénover et d'avoir des performances énergétiques, même pour des bâtiments anciens, qui soient tout à fait raisonnables.
La particularité du programme, c'est que vous avez réhabilité, reconstruit, mais en concertation avec les habitants. C'est-à-dire que vous leur avez demandé ce qu'ils voulaient.
Oui, on a travaillé. Alors, ça se fait avec les habitants, ça se fait aussi avec la collectivité locale. Et ce qui était un vrai plus à Saint-Ouen-l'Aumône, c'était qu'on a des habitants qui se sont impliqués dans la rénovation de leur quartier et qui se sont impliqués à nos côtés, c'est-à-dire de manière extrêmement constructive, et qui ont pu exprimer des attentes, qui ont pu exprimer des choix, même urbains. Ils ont été particulièrement sensibles à l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite des bâtiments anciens, par exemple. C'est des choses sur lesquelles ils sont venus nous titiller à juste titre. Ils nous ont aussi beaucoup aidés à prendre en compte le public des personnes âgées, qui était extrêmement important sur ce quartier. Et on a pu déployer un projet, du coup, extrêmement ciblé sur ces publics-là, avec un local qui est géré aujourd'hui par les habitants eux-mêmes, par l'intermédiaire d'une amicale des locataires, et qui fait des animations pour les personnes âgées, qui les aide dans leur quotidien, qui va taper à la porte de ceux qu'on ne voit pas depuis un ou deux jours.
Est-ce que cette démarche, elle est duplicable dans des pays pauvres, à votre avis ?
Oh, moi, je pense que oui, j'en suis convaincue. D'ailleurs, en vous écoutant, il y avait quand même une résonance particulière, parce que Emmaüs Habitat, ce n'est pas un bailleur comme les autres. Et on a démarré en 54, c'était pour la résorption des bidonvilles. Donc, il y a eu quand même, une approche. Il y a eu une approche avec les habitants de ces quartiers. D'ailleurs, pour certains qui sont encore dans notre patrimoine et qui sont encore extrêmement impliqués. C'est ceux-là, d'ailleurs, qui le sont le plus, hein, si je peux me permettre. Donc, moi, je pense que c'est duplicable.
Merci en tout cas à vous tous. Il faudra revenir pour faire d'autres émissions, parce que c'est vraiment un énorme sujet. Je le rappelle, en 2050, on aura 3 milliards d'habitants qui vivront dans ces quartiers précaires, des quartiers qui seront d'ailleurs d'autant plus les victimes du changement climatique. Mais ça, c'est un autre sujet. Merci à vous Agnès Deboulay, Hervé Théry, Delphine Depay, et merci à vous Armel Choplin, en ligne de Cotonou. Dans quelques instants, c'est l'Afrique qui gagne. Il n'y a pas que des expulsés, heureusement, sur le continent.
Pussy nigga play, he might just die by my baby. Shut up, never try, my baby. No weak, no, now we multiply, my baby. Hang me up inside of my baby. It's simple, just sign that I didn't lie, my baby. I pull up and ride with my baby. New worldie for my child and my baby.
Do it like you always wanted. Baby, I want your top hit. Yeah. My diamonds are going dumb. Spin. I'm inside your mouth like gum. Experiment. Now Rick, I put dents on a bitch. Ow. By her minks, not trench, I'm a pimp. Yeah. Big Rex got me walking with a limp. I ain't really don't really like I'm flavor shrimp. Ooh, I'm Versace cover on every time like some weed. Yeah. She with that ass like an NFB. I got more Capris in that cavity. What? Baby, don't pull it out of your teeth. What? We go shopping at Bell Harbor for the beach. Ain't talking car, but I need hunters for me. And I'ma beat that pussy concrete like a motherfucking street. I'ma feed on my mule. Every time I feel tired, I need 3 hoes like a hell. Yo, ho, 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 don't care, I'ma keep it all to myself.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
7 milliards de voisins.
Il y a des talents sur lesquels moi je parie.
Vraiment, l'Afrique regorge de talents.
Elle a été la première femme mécanicienne du Nigeria à l'époque. Sandra Agwebor a 46 ans. Elle a plongé dans le monde des moteurs à 11 ans et elle a ensuite monté son garage et lancé la Lady Mécanique Initiative pour encourager d'autres femmes en réinsertion à se lancer dans la mécanique. Et Charlie Dupiau l'a rencontrée à l'occasion du Women in Africa à Marrakech. Cette passionnée de carrosserie, détonnée par sa tenue dans cette conférence assez chic, bleu de travail et bottes.
J'ai grandi dans un foyer polygame. Mon père avait 7 femmes et 24 enfants. J'avais 12 ans, presque 13, quand j'ai commencé à avoir ce rêve de devenir mécanicienne. Et ce rêve est devenu réalité. Quand j'ai commencé à apprendre ce métier dans les années 80, c'était un tabou. Comment une femme peut-elle travailler dans la mécanique ? Dans ma famille, cela posait vraiment un problème, parce que ma mère ne voulait pas que je le fasse. Elle disait que les grosses machines du garage allaient tomber sur moi et me briser une jambe. C'est ce qu'elle me disait toujours. Elle avait très peur. Puis elle a fini par accepter. Elle a bien vu que je n'allais pas renoncer. Mon père, lui, m'a encouragée, comme c'était le métier que j'avais choisi. Il n'y avait alors aucun mécanicien dans ma famille. Absolument personne.
Comment vous avez commencé ?
J'ai passé 6 ans dans un garage de mon quartier où mon père allait faire réparer sa voiture dans les années 80. Quand mon père m'a emmenée là-bas, la première fois, le gérant et les clients qui étaient là étaient tous surpris. Quoi ? Une femme veut apprendre ce métier ? J'ai dit oui, oui, je veux apprendre. Ils m'ont dit, mais tu ne peux pas. Je leur ai répondu, si, je peux y arriver. J'étais au collège à ce moment-là. J'avais ma tenue à l'intérieur de mon sac d'école et de l'école, j'allais directement au garage.
Tous les soirs ?
Oui, chaque soir. J'aimais vraiment ça. Changer une vieille voiture, la faire redevenir comme neuve, j'aime tellement ça. Ensuite, je suis allée dans une école technique pour suivre une formation d'ingénierie automobile. C'était une école publique à Benin City. La formation a duré 3 ans. J'étais une star là-bas parce que j'avais déjà plein de connaissances. J'étais la seule femme de ma classe et même du département de mécanique. J'ai toujours subi des humiliations, des intimidations, tellement de choses de ce genre. On vient près de toi t'applaudir en riant, te dire « Tu n'as pas honte de faire de la mécanique ?» Il y a 30 ans, je pleurais, je répondais « Arrêtez, ne vous moquez pas de moi, je fais ce métier parce que j'aime ça. »
Et ça arrive toujours ?
Non, of course, non.
Non, bien sûr, non. J'ai 35 ans d'expérience maintenant, je ne pleure plus, c'est fini.
En 94, quand vous avez ouvert votre premier garage, quelles étaient les réactions des clients ? Est-ce que vous avez eu du mal à avoir des clients ?
Oui, ils passaient me voir pour me tester. Ils venaient, mais ils ressortaient convaincus parce que je savais ce que je faisais. Dans ces cas-là, ce que tu dis au client compte. Et quand je réparais la voiture d'un client, il me recommandait ensuite à d'autres. Et puis, j'ai lancé l'initiative Lady Mécanique en 2004 pour soutenir les femmes vulnérables, les sortir littéralement de la rue. J'accueille des ex-prostituées ou des jeunes femmes qui ont quitté l'école. Il y a aussi beaucoup de femmes revenues de Libye qui veulent être formées.
Et combien de filles vous formez chaque année ?
Nous ne pouvons en former que 200 par an parce qu'il faut leur payer les salaires.
Pourquoi vous avez envie d'encourager les femmes à faire de la mécanique ?
Je veux juste pas mourir avec mes idées et emporter avec moi ce que je sais. Beaucoup pensent que c'est trop difficile alors qu'elles peuvent choisir. Décider de peindre les voitures, faire de la carrosserie ou devenir électricienne. Toutes ces spécialités vous permettent de travailler, d'être indépendante et de gagner de l'argent. Certaines sont même devenues formatrices chez nous. Mais le plus souvent, elles s'allient à trois pour ouvrir leur propre garage. Aujourd'hui, nous avons plus de 1000 mécaniciennes au Nigeria. J'aimerais qu'en 2030, nous soyons 20 000 femmes dans l'industrie automobile dans le pays.
Qu'est-ce que c'est pour vous l'Afrique qui gagne ?
C'est l'idée de rassembler les femmes africaines. Et j'aimerais vraiment nouer des partenariats avec d'autres femmes du continent pour qu'elles puissent reproduire mon projet dans leur pays.
Et merci à toute l'équipe, Sigrid Azeroual, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Raphaël Lazizi, Michael Simon. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio ou en podcast, rubrique magazine toujours. Et puis vous nous retrouvez évidemment sur la page 7 milliards de voisins sur le site RFI.fr et sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Demain, 7 milliards de voisins, rediffusion de notre émission sur les mariages précoces et les mariages forcés. En encore majoritaire sur la planète, hélas. Alors comment lutter contre ces atteintes aux droits fondamentaux? Comment dire non sans renier sa famille? On en parle demain avec vos témoignages.